Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Voici l'histoire d'Yvonne Chevalier. En 1951, à Orléans, elle tue son mari, qui n'est pas n'importe qui. Il est député-maire d'Orléans et vient d'être nommé ministre. Et pourtant, 4 mois plus tard, elle est acquittée par la cour d'assises. Pourquoi ? Je pense que vous allez le comprendre en écoutant cette histoire que j'ai écrite avec Nicolas Loupien, réalisation de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Le 12 août 1951, au matin, à Orléans, en plein centre-ville, dans le quartier de la cathédrale, au 22 rue Jeanne d'Arc, plus précisément, la gardienne entend 4 coups de feu. Et juste après, Madame Chevalier, qui habite l'immeuble, vient frapper à la porte de sa loge. Elle a son fils Mathieu dans ses bras.
« Vous pouvez me garder Mathieu un moment ?»«
Oui, bien sûr, madame. Mais qu'est-ce qui se passe ?»«
Rien du tout, ne vous inquiétez pas. »
Madame Chevalier est l'épouse du docteur Chevalier, le député-maire d'Orléans, qui la veille a été nommé ministre dans le gouvernement Pleven. Comment voulez-vous qu'elle lui refuse de garder le petit ? Quelques instants plus tard, nouveau coup de feu. Et là, la concierge décide d'aller voir. Alors elle se lance dans l'escalier. C'est une dame d'un certain âge. Elle arrive un peu essoufflée.
Ah ! Vous êtes là ? J'ai tué mon mari.
Et de fait, il est là, son mari, dans la chambre, sur le tapis, dans une mare de sang. Madame Chevalier elle-même appelle alors le commissariat d'Orléans. Le commissaire est un ami de la famille.
Vous pouvez venir, commissaire ? Oui. Oui, chez nous, au 22 rue Jeanne d'Arc. Mon mari a besoin de vous. D'accord, je vous attends.
Ça, pour avoir besoin de lui, il a besoin de lui. Le commissaire vient en personne. Et quand il arrive, il trouve Yvonne Chevalier tout en noir. Elle a déjà revêtu ses habits de veuve.
Commissaire, j'ai perdu la tête. J'ai été prise d'une folie, je ne sais pas.
Et pour quelle raison, enfin, cher ami ?
J'ai pensé que mon mari avait une maîtresse. Alors quand il est rentré de Paris, je lui ai tout simplement demandé des explications. Et là, il m'a dit, si tu continues, je vais te quitter. Je lui ai répondu, si tu fais ça, je me tue. Et là, je suis allé dans l'armoire. J'ai pris le revolver qui était caché sous la pile de drap. Pour me tuer, commissaire, devant lui. Et là, savez-vous ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, mais tue-toi, c'est ce que t'auras fait de plus intelligent dans ta vie. Et il a ajouté, attends que je sois parti, je suis pressé. J'ai pas supporté, commissaire.
Et donc, au lieu de se tuer, elle l'a tué. Elle dit qu'elle a tiré 4 fois, que là, son fils, le petit Mathieu, s'est mis à hurler. Elle a posé le revolver, elle est allée le réconforter, elle l'a descendu chez la concierge, et elle est remontée.
Après ça, je voulais me tuer. Je me suis mis à genoux, à côté de lui. Il bougeait plus. Et puis là, j'ai vu au mur la photo de notre fils aîné. Et que voulez-vous, j'ai pas trouvé la force d'abandonner mes enfants.
Et donc, elle a tiré la 5e balle, sur son mari. Elle dit que son corps a été secoué par un spasme.
Voilà, monsieur le commissaire. C'est tout. Après, je vous ai appelé.
Yvonne Chevalier est emmenée au commissariat d'Orléans. La nouvelle a déjà fait le tour de la ville. Et devant le commissariat, il y a des gens qui hurlent. À mort ! À mort ! Elle a tué le maire. Elle a tué le député, elle a tué le nouveau ministre, sa femme. C'est un événement considérable. Les obsèques ont lieu 4 jours plus tard. Des obsèques nationales. Le président de la République, Albert Lebrun, est là, qui est venu en train. Tous les magasins, les administrations, les entreprises ont baissé leurs rideaux. Et la foule, massée derrière des barrières, remplit toute la rue Jeanne d'Arc jusqu'au parvis de la cathédrale Sainte-Croix. Le corbillard, couvert de fleurs, est tendu de drap noir et tiré par 2 chevaux. Il est suivi par le président Lebrun et par les parents du disparu. Dans le journal du matin, La République du Centre, Roger Secrétin, le directeur et futur maire, écrit « Nous sommes sous le coup d'un tel drame que les 4 jours qui se sont écoulés ne nous ont pas permis de reprendre nos sens et le cours normal de nos pensées, d'accepter comme une réalité le brutal message qui entraîna aussitôt l'ordre des choses dans un vertige. Le maire d'Orléans est mort. Je vous concède que c'est un peu lyrique, mais ça traduit l'incompréhension des gens. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé avec sa femme pour qu'elle en arrive là ? Parce que sur les faits eux-mêmes, l'enquête va être vite bouclée. Yvonne Chevalier reconnaît que c'est elle qui a tué. Et d'ailleurs, c'est elle qui a appelé le commissaire pour se dénoncer. Sur les faits, il n'y a pas de doute. En revanche, sur le contexte, sur le mobile, à ce stade, on ne sait rien. Et c'est important en vue du procès. On ne condamne pas à la même peine une femme bafouée et une femme machiavélique. Une femme bafouée peut attendrir un jury d'assises. Elle peut même être acquittée. On l'a déjà vu. D'où l'urgence d'approfondir l'enquête à la recherche d'un mobile, des ressorts de ce meurtre. Sur ce plan-là, pour l'instant, on a cette histoire de maîtresse. Elle soupçonnait l'existence d'une maîtresse. Elle a demandé une explication. Elle a menacé de se tuer, elle. Il lui a dit « Mais tue-toi, c'est ce que tu auras fait de plus intelligent dans ta vie. » Ça l'a mise hors d'elle, elle l'a tué, lui. Mais enfin, si toutes les femmes trompées se mettaient à tuer leur mari, en disant « Il m'a trompé, j'ai pas supporté », il n'y aurait plus d'hommes sur la planète Terre. Dans cette affaire-là, c'est beaucoup plus complexe que ça. En quelques semaines d'enquête, les policiers vont entrer dans la psychologie de ce couple. Les deux se connaissent depuis 1935. À cette époque, elle est élève sage-femme à l'hôpital d'Orléans et lui est interne dans le même hôpital. Il termine ses études de médecine. Un jour, elle a un point de côté qui dure. Et vous savez comment c'est, quand ça dure, on a toujours peur que ce soit cardiaque. Alors un soir, elle va voir l'interne de garde, un beau garçon, brun, ténébreux, athlétique, Pierre Chevalier, bien entendu. Et on peut dire que c'est le coup de foudre. Il passe la soirée et une partie de la nuit à parler, et le lendemain, il se revoit et elle devient sa maîtresse. Pourtant, ils ne se ressemblent pas. Lui, Pierre, c'est un fils de bonne famille, petit-fils et arrière-petit-fils de médecin, fils d'un maître potier très reconnu. C'est un jeune bourgeois d'Orléans. Alors qu'elle, Yvonne, c'est tout l'inverse. Elle est née dans la Beauce, dans une ferme. C'est une fille de paysan. Elle est allée en pension chez les sœurs. Elle y a appris l'humilité, le dévouement, la compassion. C'est une jeune fille un peu réservée, vierge évidemment quand il la rencontre, timide, discrète plutôt. Et d'ailleurs, les parents de Pierre, au début, ne voient pas cette idylle d'un très bon œil. Pour eux, c'est ce qu'on appelle une mésalliance. Mais les deux tourtereaux s'aiment puissamment. Et selon les critères de l'époque, il faut reconnaître qu'ils vont bien ensemble. Lui est brillant et ambitieux. Elle est dévouée et docile. C'est l'épouse idéale. Et puis la guerre arrive. Et Pierre est mobilisé, évidemment. Il part au front comme médecin-lieutenant. Ça pourrait être l'occasion de tourner la page. Mais non. Car Pierre a des principes. Alors il revient en permission en décembre 1939 pour l'épouser. Avec cette idée que peut-être à la guerre il va mourir, et que donc il faut la protéger en la faisant devenir Madame Chevalier. Et ce faisant d'ailleurs, il force la main à ses parents. Et puis il repart. Et il est capturé en 1940 et envoyé dans un camp de prisonniers à Münster, en Allemagne, jusqu'à sa libération fin janvier 1941. Et là, il rentre chez lui, à Orléans, retrouver sa femme. Quand il arrive, c'est un héros de guerre. Les rapports disent qu'il a été d'une bravoure sans égale. Et d'ailleurs, il arbore la croix de guerre. Il ouvre un cabinet de médecine, et la suite est assez classique. Elle tombe enceinte. Ils ont un premier fils. Lui travaille beaucoup, et à côté, il bascule dans la résistance. Il n'y a pas de doute là-dessus. Pierre Chevalier a été membre du comité directeur du mouvement Libération Nord. Son cabinet de docteur était une boîte aux lettres de la résistance. Finalement, pour échapper aux rafles, il entre en clandestinité. Et dans le maquis, il est désigné maire d'Orléans pour la libération. Ce qui fait qu'à la fin de la guerre, quand il entre dans Orléans libéré, c'est un héros. Et c'est là que se situe le moment clé dans la vie de ce couple. Le moment où l'ambition de Pierre écrase tout sur son passage. Tout, et surtout Yvonne. Le 23 août 1944, Pierre Chevalier devient donc maire provisoire d'Orléans. En avril 1945, il est élu maire et député à l'Assemblée constituante. Et en 1947, il est réélu. C'est donc à lui qu'il appartient de reconstruire Orléans, qui est en ruine après les bombardements allemands et alliés. Il a compris que s'il réussit ça, s'il redonne aux Orléanais de l'eau, de l'électricité, s'il relance la machine administrative, rien ne pourra plus lui résister. Et c'est comme ça qu'il est le premier maire en France à utiliser le béton précontraint pour reconstruire vite et bien. Orléans est cité partout comme un modèle. Et à l'Assemblée nationale, il est assez habile. Il s'inscrit à l'UDSR, qui est un petit groupe politique charnière, incontournable si on veut bâtir un gouvernement ou le renverser. La preuve d'ailleurs que c'est un groupe d'ambitieux, Gaston Defferre en est membre, et un certain François Mitterrand. Et Yvonne, dans tout ça? Eh bien Yvonne, elle l'embarrasse un peu. Elle n'est pas à la hauteur de ses ambitions. Elle ne se tient pas comme il faut, et elle n'est pas assez élégante. Elle ne sait pas tenir une conversation. Et un jour, il lui dit « Oh, ce que t'es falote, ma pauvre. Enfin, sur toi, les plus belles robes tombent comme des chiffons. » Le salaud. Et elle, du coup, elle essaye de se maquiller, de s'habiller comme il faut. Elle dévore les manuels de savoir-vivre. Elle apprend même par cœur des extraits des recueils littéraires. Mais rien n'y fait. Quand il la traîne à des réceptions mondaines, elle reste seule, pendant des heures, une coupe de champagne à la main. Personne ne lui parle. Et lui,
« Décidément, ma pauvre Yvonne, t'as toujours l'air d'une bonne sœur en civil. »
Elle lui fait honte. Voilà, honte. Et après la naissance de leur deuxième fils, il se met à faire chambre à part. Et bientôt, il ne l'invite plus nulle part. Et elle se sent délaissée. Elle est malheureuse. Elle voudrait qu'il redevienne simple médecin comme avant.
En fait, tu fais tout pour t'opposer à mon ascension? Hein, tu veux quoi? Tu veux une petite vie étroite, étriquée?
Un jour, il la griffe. Il la gifle. Il lui donne des coups de pied. Il lui arrache des touffes de cheveux. Et elle étouffe ses cris pour ne pas réveiller les enfants. C'est à ce moment-là qu'apparaît cette obsession de la maîtresse. Car maintenant, il a un appartement à Paris. Elle n'y est allée qu'une fois, mais elle sait qu'il sort tous les soirs. Alors elle finit par lui poser la question.
« Il y a une autre femme, Pierre ?»« Ha ! » !»« Mais oui, hein ? Il y a toutes les autres femmes, hein, sauf toi. Toi, tu comptes pas. Toi, t'es hors-jeu, ma pauvre. »
Alors elle va fouiller dans son bureau et elle trouve une lettre d'une certaine Jeanne Perrault. Une lettre très explicite, très torride même. Elle n'osera jamais aborder le sujet avec Pierre. Mais aller affronter la maîtresse, pourquoi pas? Parce que cette Jeanne Perrault, elle la connaît très bien. Son mari, Léon Perrault, est propriétaire du grand magasin d'Orléans, à la ville de Paris. Alors un jour, elle décide d'aller l'affronter chez elle, sur son terrain. Un matin, c'est le mari cocu qui lui ouvre la porte. Petit, mince, le visage osseux, il commence à perdre ses cheveux.
« Oui, oui, ma femme est là, je vous l'appelle. Jeanne ! Jeanne, c'est pour toi !»
Et là-dessus, il enfile son manteau et il file. Et Jeanne apparaît, en nuisette, dans le salon, grande, belle, la chevelure rousse flamboyante, une cigarette à la main et une tasse de café dans l'autre. Une vampe au seau du lit.
« Yvonne, quelle surprise! Comment allez-vous ?»
Yvonne n'y va pas par quatre chemins.
« Vous êtes la maîtresse de Pierre, n'est-ce pas ?»«
Mais enfin, vous me flattez! Un homme tel que lui, avec une fille comme moi, enfin c'est pas sérieux. Nous sommes juste bons camarades. »
Elle n'en tire rien de plus. Alors elle va voir le mari, Léon. Elle se dit, entre cocus, on va se comprendre. Tu parles?
Je compatis, madame, je compatis, mais en ce qui me concerne, ça fait longtemps que je suis au courant des infidélités de ma femme. On a noué un pacte, voyez-vous. Elle est libre, mais pas de scandale, hein, pour les enfants et surtout pour le commerce. Quant à monsieur Chevalier, votre époux, il m'a obtenu la Légion d'honneur pour mon frère, alors.
Misérable. Le 17 juin 1951, Pierre Chevalier est réélu triomphalement à la tête d'Orléans. Et Yvonne est là, au cœur de la liesse générale, au milieu des journalistes, des amis, des collaborateurs, des pique-assiettes. Elle est là. Et soudain, elle fend la foule et elle prend son Pierre par le cou et elle l'embrasse, une galoche sur la bouche, devant tout le monde. Elle veut le reconquérir. Et lui, avec un dégoût visible, la repousse si violemment qu'elle manque de tomber à terre.
Garde tes distances, enfin. Je n'aime pas me donner en spectacle.
Yvonne prétexte une migraine et elle quitte la réception. Deux mois après, elle le tue. Voilà. Voilà ce qu'il y avait à apprendre sur la vie d'Yvonne et Pierre Chevalier en prévision du procès. C'est une femme humiliée, méprisée, blessée. Une femme dont Chevalier a honte parce qu'elle n'a pas les manières, parce qu'elle n'a pas la distinction, parce qu'elle est une paysanne et que ça ne lui va plus. Vous allez me dire, ça n'excuse rien. Ça explique, mais ça n'excuse rien. Eh bien, on va voir. Le procès d'Yvonne Chevalier s'ouvre le 5 novembre 1951, quatre mois seulement après le drame. Vu l'émotion qui s'est emparée d'Orléans, il a été dépaysé à Reims. Le premier jour, 3000 personnes se massent devant le palais de justice. 3000! Beaucoup plus qu'il n'y a de place dans la salle d'assises. Mais ça vous donne une idée de la passion qui entoure cette affaire. La majorité de ceux qui ont pu entrer dans cette salle d'assises, disons-le tout de suite, sont du côté d'Yvonne. Depuis que cette affaire fait les choux gras de la presse et que les turpitudes de son mari ont été révélées, Yvonne Chevalier a gagné le soutien de l'opinion. Dans cette France des années 50, où les violences conjugales ne sont pas un sujet, les Français ont choisi leur camp.
Faites entrer l'accusé, je vous prie.
Quand Yvonne entre dans la cour d'assises, elle est telle qu'on l'imaginait. Modeste, discrète, simple. Elle ressemble au fond à ces femmes qui sont assises dans le public. Un petit tailleur gris, un chemisier blanc, les cheveux bien lissés, la tête inclinée sur l'épaule gauche. Le journaliste Jean Laborde, qui est l'un des plus célèbres chroniqueurs de l'époque, écrit « Elle a un profil de vierge romane ». Jeanne Perrault, la scandaleuse, est là aussi. Chevelure rousse, chapeau vert, demi-sourire d'impertinente. À l'appel de son nom dans la liste des témoins,
« Madame Perrault témoignera en début d'après-midi. »
Le président doit faire taire un murmure hostile qui monte de la foule. Cette briseuse de couple, cette vampe. Assez vite, on s'aperçoit que le président de la cour d'assises, lui-même, est plutôt favorable à Yvonne.
« Vous avez beaucoup souffert, madame. Et je dois bien rappeler les étapes de votre désespoir. »
Et puis l'expert psychiatre, le docteur Gouriot, vient à la barre.
« Madame Chevalier est saine d'esprit. Ça ne fait aucun doute. Elle ne souffre d'aucun trouble mental. Mais je peux dire que le jour du crime, elle n'avait pas une responsabilité entière. Les chocs moraux qu'elle avait subis et le régime qu'elle suivait ont provoqué chez elle, je dirais, une sorte de dérèglement de ses facultés de jugement.
Et à la fin, l'avocat général Lindon fait un réquisitoire d'une indulgence inédite. Parce que d'habitude, c'est lui qui tape sur l'accusé, c'est lui qui réclame la mort, qui réclame perpétuité. Mais là, c'est un autre homme.
C'est une douloureuse affaire, hein, où l'amour désespéré d'une femme a mis en deuil toute une ville. Ai-je besoin de vous dire qu'il faut plaindre Yvonne Chevalier? Non, je ne crois pas. Allez-vous prononcer une peine criminelle, c'est-à-dire la réclusion aux travaux forcés? Je ne le réclamerai pas.
Il ne va quand même pas demander l'acquittement.
Ne rendez pas une justice de roman, hein? Ça n'est pas un divorce que vous jugez. C'est un meurtre. Un meurtre pour lequel je vous demande une peine de 2 ans de prison ferme.
2 ans de prison ferme? Pour un meurtre? Derrière, l'avocat d'Yvonne n'a plus rien à faire. Il n'a plus rien à dire, tout est dit. Pour une fois que l'avocat général est son meilleur allié. Alors il plaide rapidement. Et les jurés se retirent. Le jury est composé de 5 agriculteurs, 1 maçon et 1 représentant de commerce. Avec le président et ses 2 assesseurs, ça fait 10 hommes. 10 hommes, tous pères de famille, et pas une femme. Pour Yvonne, ça n'est pas le jury idéal. Les délibérations durent à peine 30 minutes. Et pendant tout ce temps, par la fenêtre, on entend la foule qui crie « Libérez-la ! Libérez-la !»
Le jury devait répondre à 3 questions. Yvonne Chevalier est-elle coupable d'avoir porté des coups et blessures? Le jury a répondu non. Ces coups ont-ils entraîné la mort avec l'intention de la donner? Le jury a répondu non. Yvonne Chevalier a-t-elle volontairement donné la mort? Le jury a répondu non. En conséquence de quoi, Madame Yvonne Chevalier est acquittée.
Acquittée? Enfin, vous vous rendez compte? Acquittée après avoir tué son mari, un ministre? Acquittée? Dehors, les 3000 personnes massées devant le palais de justice de Reims explosent de joie. Heureusement qu'on évacue la dame par un fourgon cellulaire, parce que sinon, la foule l'aurait portée en triomphe. Et elle, elle encaisse le verdict comme elle a traversé son procès. Modestement, sans un geste, sans un sourire, sans un mouvement de visage, elle semble indifférente. Imaginez la tête des 40 reporters de la presse étrangère, des Anglais et des Américains surtout, qui assistent à ce verdict. Enfin, comment expliquer à leurs concitoyens cette particularité française qui est l'indulgence pour le crime passionnel ? Voilà un pays où on peut tuer son mari de 5 coups de revolver et sortir du palais de justice libre et acclamé par la foule. Autant vous dire que dans les jours qui suivent, les Anglais se régalent avec cette histoire. Dans d'ironiques chroniques, ils annoncent une hécatombe de maris français. Quant aux chroniqueurs de chez nous, ils sont partagés sur ce verdict. Le Parisien libéré écrit « Si Madame Chevalier n'est pas coupable d'avoir tué son mari, mais de quoi diable Monsieur Chevalier est-il mort ?» Quoi qu'il en soit, Yvonne récupère ses enfants. L'Église catholique lui donne l'absolution pour son crime. Elle y tenait, ça c'était essentiel. Et ensuite, sur les conseils du curé de sa paroisse, elle quitte Orléans et même la France pour aller s'installer loin, très loin, en Guyane, à Saint-Laurent-du-Maroni, avec ses enfants. Et là-bas, elle travaille comme sage-femme volontaire dans un hôpital pour pauvres. Elle donne des cours aussi aux infirmières. Elle rentre en métropole en 1963 et s'installe à la Motte-Beuvron, où elle meurt 21 ans plus tard, en novembre 1984. C'est étonnant que nul n'ait jamais songé à récupérer son histoire pour faire d'Yvonne Chevalier une égérie du féminisme.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.